20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Lorsque l'on entend parler de la Gaule, ce n'est pas elle, mais d'autres voix qui parlent à sa place, que l'on écoute encore parler pour elle. Très tôt, la Gaule a perdu la parole, et l'on s'est habitué à considérer que, puisqu'elle ne disait rien, la Gaule n'avait rien à dire. De fait, la parole était tout au vainqueur. La grande tempête de l'histoire, celle qui ne cesse d'accumuler ruine sur ruine, est passée par là. La parole des dominants s'est brisée à son tour et leur mémoire s'est défaite, comme celle des peuples qu'ils avaient soumis. Que fallait-il faire pour entendre la voix de cette Gaule? Assurément lire et inviter Laurent Olivier, celui-là même qui partage sa vie entre un grand musée et les ferrailles millénaires et rouillées, issues de l'ultime combat d'une Gaule encore libre et indépendante, sur un lieu abandonné et silencieux, gardien de la mémoire du passé, Alésia. Laurent Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Conservateur en chef du Musée d'archéologie nationale, incontournable protohistorien, vous publiez aujourd'hui « Le pays des Celtes, mémoire de la Gaule » aux éditions du Seuil. Inconditionnel, j'ai adoré. Laurent Olivier, j'y ai tout d'abord découvert que nous avions affaire à une spoliation gauloise, car l'histoire de la Gaule serait par essence romaine.
C'est une mémoire volée. L'histoire de la Gaule a été écrite par les vainqueurs, qui toujours sont ceux qui écrivent l'histoire, et on ne sait pas ce que les Gaulois pensaient, sentaient, imaginaient, sauf par le témoignage de César, qui lui-même avait des idées assez précises sur ce qu'il voulait faire de son récit, quelque chose qu'il écrivait à sa gloire personnelle, pour justifier son intervention dans un pays pour lequel il n'avait aucun mandat pour intervenir. Et donc, en fait, on a une vision complètement romaine de la Gaule. Qui est trompeuse dans la mesure où on n'a pas le témoignage des Gaulois sur eux-mêmes. C'est assez proche finalement de la situation des guerres indiennes aux États-Unis. On a la version américaine, on a la version de l'armée américaine. Et la version indienne, elle ne subsiste que dans la mémoire orale et elle est condamnée à disparaître.
Les Gaulois, d'après la conquête romaine, sont parqués dans un passé qui n'est pas le leur, mais celui qu'on leur attribue.
Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a en fait les Gaulois terrifient les Romains. Les Gaulois, avant d'être des colonisés, ont été des guerriers, des envahisseurs agressifs qui ont commis l'incroyable, l'inattendu. Ils ont envahi Rome et les habitants de Rome ont dû fuir. Ils ont laissé les maisons ouvertes en laissant les patriciens et les vieux. Et les jeunes sont allés se réfugier piteusement au sommet du Capitole. C'est l'épisode des oies du Capitole. C'est une mémoire blessante qui leur durera jusqu'à la fin de l'Empire. Et pour les Romains, les Gaulois sont cela. C'est-à-dire, c'est des barbares, des barbares inquiétants, des gens dont, malgré tout, malgré le fait qu'ils soient romanisés, ils sont toujours tels qu'ils étaient et leur sauvagerie est toujours prête à ressurgir. Et donc, on se les imagine plutôt tels qu'ils étaient, tels qu'on se représente ce qu'ils étaient, plutôt que tels qu'ils sont au moment même où on en parle.
Strabon évoque justement ces Gaulois mis dans une sorte de passé qui n'est pas le leur.
Oui, tout à fait. Et les historiens qui suivront ensuite jusqu'au Bas-Empire décrivent toujours les Gaulois comme si c'était quelque chose d'un petit peu atemporel. Ils décrivent des pratiques qui n'ont plus cours depuis des siècles et qui les enferment dans une sorte d'espèce d'identité figée telle qu'ils seraient en eux-mêmes. Mais ça réfère à un passé dont plus personne ne se souvient et dont on ne sait pas en réalité même s'il a réellement existé.
Justement, les Romains se figurent représenter la civilisation, l'état le plus avancé de l'humanité. Le prix à payer pour les Gaulois et les Celtes est donc de représenter les barbares ou de disparaître dans cette romanité?
Oui, c'est une situation qui va se rejouer avec la colonisation des Amériques, hein, et les peuples indigènes. Soit l'entité gauloise se fond dans la romanité et continue encore à subsister comme la mémoire d'un état de sauvagerie antérieur à la civilisation, ou bien ils disparaissent complètement.
Mais les Gaulois étaient bien moins barbares que les Romains et les Grecs l'ont supposé.
Oui, mais on ne les voit qu'à travers ce filtre-là, puisque c'est le filtre de l'histoire qui nous a été transmise. Et donc, ça va poser beaucoup de problèmes, et ça a posé énormément de problèmes à l'archéologie, parce que en fait, on cherchait dans le sol le témoignage des textes de l'Antiquité, on ne le trouvait pas. On a cherché des cabanes en roseaux, par exemple, alors que, manifestement, les Gaulois construisaient dans des matériaux beaucoup plus pérennes, avaient de la vraie architecture. On a cherché des lieux de culte proches de la nature, qu'on n'a pas trouvé, et donc on est passé à côté des sanctuaires. La première découverte d'un sanctuaire gaulois, c'est tout de même les années 1980. C'est assez hallucinant quand on y pense.
En Picardie.
Oui, Gournay-sur-Aronde, fouille de Jean-Louis Bruneau. Mais ce qui est complètement incroyable, c'est que malgré l'intensité des recherches depuis le 19e siècle, on ne l'ait pas trouvé plus tôt. Parce que c'était, alors il est hasard la découverte, mais c'est aussi quelque chose qui était inimaginable. On imaginait plutôt des druides dans les chênes, des rochers sacrés, des sources miraculeuses ou ce genre de choses.
En tout cas, si Posidonio s'était passé à Gournay-sur-Aronde, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Il aurait été effaré.
Je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé. Posidonio, c'est le seul auteur qui ait une vision un petit peu ethnographique sur les Gaulois. Il visite la Gaule dans la première moitié du 1er siècle avant notre ère. Et c'est une sorte de savant un petit peu polymorphe. Philosophe, géographe, historien. Et la vision qu'il donne de la Gaule, c'est pour la première fois une vision ethnographique. C'est la seule. Hein. Ensuite, on aura César et c'est complètement différent.
Puisque nous parlons des sanctuaires, est-ce que l'on ne pourrait pas dire que les sanctuaires, c'est la thésaurisation pour les dieux chez les Gaulois?
Alors, c'est tout à fait intéressant parce que ça arrive à un moment particulier de l'histoire de la Gaule. Hein. Ça commence à se développer à partir d'une période charnière, qui est le 3e siècle avant Jésus-Christ, qui est un véritable moment de basculement. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas de sanctuaire auparavant, mais qu'il y avait probablement des formes qui s'inscrivaient beaucoup moins dans la monumentalité, dans la pérennité. À partir du 3e siècle, c'est l'apparition des sanctuaires publics, avec des pratiques qui identifient les sanctuaires comme des lieux de culte monumentaux. Auparavant, c'est autre chose, donc probablement quelque chose de plus discret, quelque chose de plus familial. Il y a un changement dans les représentations à ce moment-là.
C'est l'incompréhension totale pour les Romains, cette accumulation de biens, notamment de l'or.
Oui,
D'ailleurs, les Gaulois vont presque manquer d'or.
Oui, parce que c'est une relation qui est complètement différente avec la valeur. Les Romains vivent dans des sociétés qui comptent avec l'argent. L'argent, ça se mesure en capital. Le capital, il est mis à l'abri. Dans des sociétés où l'argent n'est pas prédominant, comme l'est la société gauloise jusqu'au 1er siècle avant notre ère, la valeur, c'est quelque chose qui est fait pour être dissipé. Et dans les sanctuaires, on amasse d'énormes quantités d'or, et les Romains sont complètement surpris. Ils se disent, mais eux qui sont tellement avides de posséder l'or, pourquoi est-ce qu'ils n'en font rien? Pourquoi est-ce qu'ils laissent l'or prendre la poussière dans les sanctuaires? C'est quelque chose d'incompréhensible pour eux.
Il y a l'histoire et la mémoire. Il y a aussi l'oubli. 12 années après la guerre des Gaules, en l'an 40 avant notre ère, César arrive au cœur de l'ancien sanctuaire des Arvernes. Que voit-il?
Ah, ça c'est Plutarque qui raconte ça. Il voit sa petite épée romaine qui est suspendue parmi les offrandes. Et il la reconnaît, il dit « mais c'est mon épée ». Ses assistants lui disent immédiatement « mais César, on va la décrocher, on va te la rendre ». Et lui, il dit, très magnanime, il dit « mais non, cette offrande est consacrée aux dieux et même César ne touche pas aux offrandes des temples ». Et cette petite épée, en fait, il l'avait perdue, semble-t-il, au moment de l'affrontement de cavalerie qui précède le siège d'Alésia. Et elle était donc comme une offrande chez les Arvernes. Donc c'est vraiment étonnant, parce qu'évidemment César ne s'est jamais vanté de cette mésaventure, et ça montre effectivement l'oubli qui est là, en même temps la pérennité de cet objet, hein, qui est là comme un élément de la preuve de la domination romaine maintenant. Hein. La petite épée, elle est là, hein, elle est là pour toujours.
Et c'est un objet, comme tant d'autres, que l'on retrouve d'ailleurs dans les sanctuaires, qui était là pour rouiller parce que justement ils appartenaient aux dieux.
C'est ce qu'on commence à mieux connaître des sanctuaires gaulois, effectivement, c'est l'omniprésence des offrandes d'armement et d'armement sacrifié qui sont exposés jusqu'à ce qu'ils tombent apparemment en décomposition, jusqu'à ce qu'ils se défassent et auxquels on ne touche pas. On les trouve aujourd'hui effondrés dans les fossés et visiblement personne n'a osé toucher à ces objets qui étaient consacrés.
Curieusement, jusqu'en 1860, on ne sait absolument pas à quoi ressemble la culture matérielle, les objets des Gaulois.
Oui, ça c'est fascinant. C'est-à-dire que les Gaulois sont, on pourrait dire, des personnages de papier. Ils ont été révélés par l'histoire des Gaulois d'Amédée Thierry hein, dans les années 1830. Et c'est un ouvrage qui aura un succès phénoménal jusqu'à la fin du 19e. Mais jusqu'aux années 1860, jusqu'en 1865 exactement, on ne sait pas exactement à quoi ressemble la culture matérielle des Gaulois. On connaît leur monnaie. On a compris que ça s'organise par peuple, mais quelle est leur poterie, quels sont leurs éléments de parure, comment sont-ils enterrés, on n'en sait rien.
Pourtant, avant, il y a eu des fouilles, donc on considérait tout ça comme une sorte d'antiquité, tout simplement.
Alors, soit les tombes sont considérées comme des tombes antiques, vaguement, et ou soit on découvre des objets extraordinaires qui sont déjà des œuvres d'art celtique en fait, comme le casque d'Amfreville par exemple, trouvé dans les années 1840 dans les travaux de la Seine. Et quand cet objet extraordinaire sort des eaux, on considère que c'est un objet qui est trop beau, trop fin pour pouvoir être gaulois. On pense que c'est plutôt un objet barbare, mais plutôt médiéval. Quand on trouve les premiers éléments d'art celtique en Rhénanie, on pense que c'est étrusque ou grec. Mais on n'imagine pas que ça puisse être gaulois. C'est trop élaboré pour que ça puisse appartenir à ces peuples barbares.
En tout cas, entre 1865 et 1875, plusieurs dizaines de milliers de tombes gauloises sont fouillées en Champagne. Une sorte de frénésie archéologique, Laurent-Olivier ?
Oui, ça c'est un moment extraordinaire. C'est le développement de l'archéologie gauloise en France. C'est aux alentours du camp de Châlons, où Napoléon III a un camp d'entraînement militaire. On découvre des sépultures gauloises, et comme l'empereur montre qu'il s'intéresse aux antiquités, les agriculteurs, mais aussi les ouvriers, vont chercher frénétiquement des tombes avec du matériel, avec des sondes, hein. On est en Champagne, et il va y avoir, on ne sait pas combien de tombes exactement ont été fouillées, peut-être 30 000 en l'espace d'une quinzaine d'années. Ça va amener une masse de matériel absolument monumentale qui va révéler l'existence de la civilisation gauloise. Et pendant longtemps, ça va poser un problème, parce que ailleurs en Europe, on ne trouve pas cet équivalent de cette civilisation marnienne qui n'existe que dans la Marne.
Ça va être réglé lors d'un congrès à Bologne ?
Oui. C'est au moment du congrès de Bologne où, en fait, les archéologues français et suisses, allemands, découvrent en Italie du Nord des objets tout à fait identiques à ceux qu'on rencontre dans la Marne. Et ils sont associés à du matériel étrusque. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut donner une chronologie à la civilisation gauloise. Jusqu'alors, on avait trouvé les premiers éléments d'armement à Alésia, donc on imaginait bien que c'était contemporain de la guerre des Gaules, mais on n'avait pas cette idée de la profondeur chronologique, de l'antiquité de la société gauloise. Et c'est le congrès de Bologne qui révèle aux yeux des archéologues des objets qui sont parfaitement interchangeables entre la Champagne et puis l'Italie du Nord.
L'histoire n'a-t-elle pas bloqué, empêché de reconnaître le passé gaulois ? L'histoire avait fait imaginer un autre passé qui, bien sûr, ne se reconnaissait pas dans les vestiges archéologiques.
On imaginait un passé primitif pour la Gaule. Si vous lisez Strabon, si vous lisez même Posidonios, si vous lisez César, vous imaginez plutôt des cabanes avec des toits de chaume, des constructions en bois. Vous imaginez des réunions dans la forêt, au milieu des bois. Hein. Vous imaginez des lieux de culte avec des druides qui cueillent le gui dans des chênes. Vous n'imaginez pas quelque chose de monumental. Vous n'imaginez pas une civilisation à part entière. Et donc, on pourrait dire que les premiers archéologues sont partis sur le terrain avec ces textes antiques à la main. Et ils ne les trouvaient pas dans les vestiges du sol. Les vestiges du sol montraient une toute autre histoire. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, que pour ce qui concerne l'habitat gaulois, pendant très longtemps, on a considéré que les fosses des potoirs étaient les espèces de tanières dans lesquelles vivaient les Gaulois accroupis au milieu de leurs immondices, sous un espèce de toit obscur, au milieu de la fumée du foyer. On imaginait les maisons gauloises dans ces fosses à ordures.
Et on avait écrit aussi que les Germains vivaient dans des trous.
Oui, et on avait même écrit que les Germains vivaient dans des trous encore pires que ceux des Gaulois, évidemment, puisqu'ils étaient encore plus barbares que les Gaulois.
Laurent-Olivier, l'histoire a fait croire que les lieux conservaient directement la transcription matérielle du passé. Il n'en est rien. Prenons Alésia, par exemple.
Ben, Alésia, c'est un très bon exemple de ça. C'est-à-dire que on sait très tôt que c'est là où on doit chercher l'emplacement de la bataille, pour des raisons de déplacement des troupes, pour des raisons toponymiques aussi. Hein. Le mont Auxois, c'est la déformation du mont des Alésiens, d'Alésia. Et lorsqu'on se rend sur place, on cherche immédiatement, dans les vestiges que le site va fournir, la transcription de la bataille d'Alésia. Et ce qu'on va trouver, en fait, la première découverte, c'est un dépôt d'armement de l'âge du bronze final. Et donc, pour les archéologues, fantastique, on a trouvé les armes gauloises. Les Gaulois se battaient donc avec des épées en bronze. C'est un dépôt des Gaulois qui combattaient sur le site. Ce qui explique que dans les premières années de l'archéologie gauloise, on représente le Gaulois avec un équipement du bronze final. C'est le fameux Gaulois avec le casque à crête, qui va inspirer d'ailleurs c'est une image très, très pérenne, ça va inspirer le casque des Gauloises, hein, c'est aussi un casque à crête. Tout l'imaginaire, gaulois va se créer à partir de ce moment-là en quelque sorte sur une fausse idée, sur une erreur de 1000 ans, mais qui est liée au fait que, parce que c'est Alésia, on pense que tout ce qu'on va trouver à Alésia va être quelque chose qui témoigne de la bataille entre César et Vercingétorix.
Vous qui fouillez, les données de l'archéologie sont-elles toujours en décalage avec celles de l'histoire ?
L'histoire, ça raconte ce qui s'est passé, ce qu'on a retenu de ce qui s'était passé. L'archéologie, ça montre ce qui s'est fait, ce qui a eu lieu là. Et c'est pas du tout la même chose en réalité. Ça peut coïncider parfois, mais souvent c'est complètement différent. Et en fait, l'un n'éclaire pas l'autre. C'est deux domaines radicalement différents qui donnent accès à des sources d'informations différentes.
Et justement, les découvertes archéologiques ne mettent-elles pas en crise le statut même de l'histoire ?
Oui, en tout cas, elle l'interroge parce que elle montre quelque chose dont les sources historiques n'ont pas rendu compte. Elle se trouve de fait dans une situation de subordination à l'histoire. C'est-à-dire, quand vous avez les textes historiques, vous cherchez dans le sol la transcription de ces textes. C'est ce qu'on a fait pour la guerre des Gaules, par exemple. C'est ce qu'on continue toujours à faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous trouvez quelque chose qui échappe au texte? Quelque chose qui correspond à des événements ou à des caractéristiques dont les textes historiques ne parlent pas. Comment vous l'interprétez et qu'est-ce que ça veut dire? Ce que l'archéologie montre, c'est que l'histoire, en fait, elle est pleine de trous. Il y a de grands moments pour lesquels on n'a pas de documentation. On n'a toujours qu'une vision parcellaire, une vision souvent orientée. Et ça montre, en fait, la fragilité de l'histoire, en réalité. C'est cela que révèle l'archéologie.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Laurent Olivier, l'art celtique peut-il se résumer à un art décoratif ?
Oui, ça on l'a beaucoup résumé à un art décoratif jusqu'au dans les années 80 peut-être, hein, et le décilement, hein, se rendre compte que ça n'est pas ça, ça prend une voie extrêmement détournée. En réalité, ça passe par la reconnaissance de l'art primitif, c'est-à-dire que c'est à partir de la guerre de 14-18 qu'on commence à reconnaître que les créations des peuples dits sauvages, les Noirs d'Afrique par exemple, c'est pas uniquement des curiosités ethnographiques, ça intéresse les artistes comme un support de création. Les artistes les voient comme des œuvres d'art à partir desquelles ils peuvent trouver un matériau qui nourrira leur propre création. Et ce mouvement-là, il continue de manière souterraine dans l'entre-deux-guerres et même durant la Seconde Guerre mondiale, on commence à reconnaître aussi l'art des Amérindiens. C'est aussi de l'art, c'est pas uniquement des curiosités pour les collectionneurs. Et c'est par une espèce de mouvement en retour que les arts archaïques ou primitifs de l'Europe même commencent à prendre un autre éclairage à partir de ce moment-là.
Il faut attendre Georges Bataille et André Breton pour voir la réelle reconnaissance de cet art celtique.
c'est eux les premiers qui ont regardé ça autrement. C'est-à-dire, ils n'ont pas regardé ça comme l'effet d'une influence des Grecs ou des Étrusques sur un art barbare local. Ils se sont intéressés à ce que ça voulait dire en lui-même. Et en particulier, Breton, il s'est intéressé, et il a été beaucoup marqué par son voyage aux États-Unis. Pendant la guerre, il part aux États-Unis. Et là, il découvre l'art des Hopis, les Katsinas en particulier. Et quand il revient, il s'intéresse beaucoup à l'art populaire. Et il découvre dans l'art gaulois une façon de représenter le réel qui échappe au canon du classicisme, du naturalisme, si vous voulez. Et c'est ça qui va l'intéresser. C'est la manière intrinsèque, la manière non classique de représenter le monde. C'est ça qui avait fasciné Bataille à l'origine, avec la numismatique, l'étude des monnaies gauloises, dans lesquelles le modèle académique du cheval, par exemple, prenait des allures complètement délirantes dans la numismatique gauloise.
En tout cas, André Breton écrit que le surréalisme accède aux mêmes forêts de symboles dans la tradition de l'art gaulois en rupture avec l'esprit latin. Donc c'est quand même curieux. Il se passionne pour le sujet.
Oui. Et surtout, ce qui l'intéresse, c'est, il reprend une expression de Marcel Duchamp, c'est de regarder la réalité d'une manière non rétinienne. C'est-à-dire, l'art n'a pas pour objet suprême de représenter la nature comme nos yeux ou comme l'optique la représente. Et c'est effectivement toute la révolution de l'art contemporain, elle est là-dessus, à partir de l'impressionnisme. C'est montrer la réalité autrement que à travers la lentille d'un appareil photo ou d'une caméra. Et de ce point de vue-là, quand on commence à être sensible à ces questions-là, tout d'un coup, l'art celtique s'illumine, parce que justement, il n'est pas du tout dans cette démarche-là. On peut le voir autrement que comme quelque chose de grossier, comme une tentative malhabile de représenter la réalité qui est inférieure à l'art grec ou à l'art classique.
Voici 20 ans, sous le tarmac de la piste 4 de l'aéroport de Roissy, est faite une découverte qui est depuis complètement oubliée. La sépulture d'un druide possédant un art d'exception.
Ah, c'est un ensemble extraordinaire qui a été trouvé à Roissy il y a effectivement maintenant presque 20 ans. C'est une tombe à char du début du 3e siècle avant Jésus-Christ, dont le mobilier est maintenant conservé, exposé à Saint-Germain. Et ce que ça a livré de manière exceptionnelle, c'est un ensemble d'objets d'art celtique. C'est pas une pièce, c'est tout un ensemble qui montre un bestiaire fantastique avec des dragons, des animaux dont l'espèce est indéterminé. Et surtout, ce que ça a révélé, c'est que il y a une école stylistique, il y a un centre de création artistique parisien. On imaginait que ces pièces provenaient plutôt de l'Est de l'Europe, de la Bohème, de la Hongrie. Et là, on a quelque chose qui est un style véritablement du bassin parisien, dont on commence à retrouver d'ailleurs on voit que ça a essaimé aussi dans Lyon, en Bourgogne, chez les Sénons. On voit que c'est vraiment c'est un centre de création d'art celtique très original.
Une des pièces est tout à fait exceptionnelle, une sorte de vase ajouré, assemblé et qui correspond à des pièces narratives.
Alors, c'est ce que les fouilleurs avaient interprété au début. Hein. Ils avaient pensé que ça pouvait être la garniture d'un récipient. Je ne crois pas que ça puisse être ça. C'est un unicum, hein. On n'a aucun élément de comparaison. C'est une sorte de dôme ajouré qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre avec tout un bestiaire extraordinaire. Il y a 3 dragons au centre et une frise de 10 monstres, hein, 5 petits et 5 grands alternés, construits sur la forme du pentagone. Et à l'intérieur, il y a une bélière. Donc c'est plutôt quelque chose qui est fait pour passer une courroie. C'est trouvé avec les éléments du char, ça ressemble à quelque chose qui va avec soit le char, soit les éléments de harnachement des chevaux. C'est probablement pas un récipient. Mais ce que ça révèle de manière extraordinaire, c'est justement ce bestiaire fantastique de l'imaginaire celtique.
Venons-en à la mémoire gauloise. Évoquons ces étonnants personnages, ces grands guerriers à l'image des grands hommes de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont étudiés par Maurice Godelier.
Oui, alors là, ça, c'est un aspect que je trouve absolument fascinant, c'est-à-dire qu'ils ont été décrits par les historiens grecs et romains qui les ont rencontrés les premiers, et les Grecs et les Romains ont eu d'abord affaire à la face guerrière des Gaulois, hein, c'est eux auxquels ils ont été confrontés d'abord, et ces grands guerriers en fait sont décrits d'une manière complètement décalés par les Grecs et les Romains, qui trouvent leur comportement complètement bestiaux. Ils les trouvent animé par la violence, il trouve animé d'une fureur de violence qui leur semble complètement insensée. Parce que, en fait, le rapport avec la violence est complètement différent dans les sociétés à État. Dans les sociétés à État, la violence, elle est canalisée par l'État. Aujourd'hui encore, un criminel, c'est celui qui s'arroge le droit d'exercer la violence à un titre individuel. La violence, elle est déléguée par l'État. Elle est déléguée à la police, elle est déléguée à la justice, qui peut tuer. Ça n'est pas délégué aux individus. Et dans la guerre gauloise, on voit que la violence est déléguée aux guerriers. Mais si elle leur apparaît sous une forme extrême, en fait, c'est très contrôlé du côté celtique. C'est-à-dire que ça n'est que temporaire, ça n'est que dans l'exercice de la guerre, et surtout cette violence-là, elle est contrebalancée par des contre-pouvoirs. Et le contre-pouvoir, c'est l'assentiment populaire. C'est-à-dire que celui qui commande, celui qui exerce la violence, doit le faire pour le bénéfice de la collectivité.
Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons la mémoire gauloise avec Laurent Olivier. Posidonios évoque la mort, ou du moins cette étrange pratique du suicide assisté chez les Celtes. Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Ça, c'est une histoire qui a fasciné tous les historiens et les anthropologues qui l'ont lue. Elle est un petit peu incompréhensible parce que visiblement, il nous en manque des morceaux. C'est un guerrier qui se fait faire le compte de toutes les possessions qui lui ont été données, du vin, des vases précieux. Il est distribué à ses amis et immédiatement après, il se fait sacrifier et il meurt. Et on a toujours trouvé ce rituel bizarre. Et c'est effectivement Marcel Mauss et Henri Hubert qui ont rapproché ces pratiques-là de pratiques apparemment extrêmement lointaines. C'est celle du potlatch, chez les Indiens de la côte nord-ouest. C'est-à-dire ce qu'ils appellent les prestations de sacrifice. C'est-à-dire que le don, en fait, est quelque chose qui s'échange, qui appelle le contre-don. Et donc, dans ce suicide assisté, en fait, c'est comme si l'idée que seule la mort pouvait racheter des biens aussi précieux. Et que le guerrier, on trouve ça chez les Indiens d'Amérique du Nord, le guerrier, c'est celui qui se dépossède toujours de ses possessions au profit des autres.
Laurent Olivier, pour vous, le passé gaulois ne serait toujours pas un passé, puisqu'il subsiste encore quelque chose de lui que nous percevons ?
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui résonne encore en nous. C'est d'ailleurs pour ça que ce passé-là nous reste accessible. On y reconnaît quelque chose, en fait. Même si ce sont des sociétés qui sont très éloignées de nous, elles ont une espèce d'étrange familiarité. Elles ont une sorte de proximité avec nous. Et en fait, on ne peut pas reconstruire le passé tel qu'il était, mais il peut trouver une résonance en nous. On peut y trouver des choses qui répondent à des questions qu'on se pose aujourd'hui.
Qu'est-ce que le passé gaulois ? Des lambeaux d'histoire, des débris de choses, des lieux abandonnés et silencieux, gardiens de la mémoire du passé. Laurent Olivier, peut-on avoir l'espoir de reconstituer le passé gaulois ?
Non, jamais. Jamais. On ne reconstituera jamais le passé parce qu'il a eu lieu, parce qu'il est perdu, parce qu'il est défait. Mais c'est justement parce qu'il est perdu et parce qu'il est défait, dans cette perte-là, on a l'opportunité d'y avoir accès par l'intermédiaire des vestiges qui nous parlent, qui évoquent quelque chose et qu'on peut interpréter. Et cette interprétation-là, elle est toujours dans le temps dans lequel on le fait. C'est notre interprétation aujourd'hui, qui n'est pas le même regard que ceux que les gens du 19e siècle avaient, qui sera probablement complètement différente pour les générations qui nous succèdent, ce qui fait que de manière tout à fait paradoxale et étrange, le passé, bien qu'ayant eu lieu, bien qu'étant terminé, c'est une sorte de source de signification quasiment infinie. Chaque époque rêve en quelque sorte à sa propre manière le passé gaulois.
Laurent Olivier, merci beaucoup. À lire donc absolument Le Pays des Celtes, Mémoire de la Gaule, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bastien Varigo et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture partira à la découverte de l'étonnante découverte faite au pied du rocher de l'Impératrice à Plougastel.